prendre soin de toi, ce n'est pas forcément ce que tu crois. Pourquoi est-ce que j'ai intitulé cette intervention de cette façon? Parce qu'on a tendance à entendre que prendre soin de soi, c'est prendre soin de son apparence avant tout. C'est bien s'habiller, se coiffer, se maquiller, ou en tout cas ne pas paraître ce que l'on peut qualifier d'être négligé. Par exemple, quand on vient tout juste d'être jeune maman, qu'on manque de sommeil, qu'on a à peine le temps de prendre une douche, qu'on peut avoir du lait sur son t-shirt, etc. Donc on va se dire, bah, prends soin de toi, prends soin de ton apparence. Mais prendre soin de soi, pour moi, et je ne suis vraiment pas la seule à le dire, cela va bien au-delà. Si on se réfère à la pyramide des besoins de Maslow, on a tout d'abord la première étape, ça va être de combler les besoins physiologiques. Dormir, se nourrir, boire, se vêtir. Une fois qu'on a atteint ce palier-là, on a ensuite des besoins de sécurité qui apparaissent, de rendre notre environnement plus stable et plus prévisible, de créer une zone de confort et un chez-soi où l'on se sent en sécurité. Ensuite, on va avoir les besoins d'appartenance, de s'intégrer dans un groupe, d'avoir un statut social, de créer des liens, d'être relié avec des personnes. Ensuite, le quatrième palier, ça va être les besoins d'estime, de se sentir reconnu, se sentir aimé et accepté par les autres. Et enfin, on a les besoins d'accomplissement, de réalisation de soi. Et tout ça fait que on prend soin de soi. Quand on a tous ces besoins qui sont comblés, ça veut dire vraiment qu'on prend soin de soi. Donc, clairement, prendre soin de soi, ce n'est pas juste bien s'habiller, ce n'est pas juste avoir une belle apparence et de retourner cela vers l'extérieur. Que l'extérieur, les personnes qui nous entourent, s'imaginent que voilà, on est propre sur soi, on est bien, on est correct, on est bien habillé, etc. Prendre soin de soi, ça va pas juste être aussi chouchouter sa peau, c'est pas juste aller chez le coiffeur, c'est pas juste aller chez l'esthéticienne ou se faire les ongles, le vernis, encore une fois, c'est encore une histoire d'apparence. Pour moi, et c'est vraiment ce que j'avais envie de vous montrer, vous inspirer grâce à ce festival, ça va plus profondément, c'est à l'intérieur de soi, comment on se sent à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a envie pour soi. Et vraiment, comment on a envie de se sentir soi-même et pas comment on veut être, se montrer aux autres. Donc prendre soin de soi, ça va être aussi d'avoir une meilleure estime de soi, d'avoir plus confiance en soi, d'oser faire des choses qui nous plaisent, qui nous font vibrer, qui nous nourrissent. Ce besoin également de partage, on a ce besoin d'appartenance, donc de se relier aux autres, mais ça peut être aussi échanger avec les autres, se rendre utile, se sentir utile. Tout simplement se réaliser en fait et faire ce pour quoi on est fait, ou en tout cas ce que l'on a envie de faire, et se sentir bien, se sentir à sa place, se sentir juste à cet endroit-là, sans avoir à se justifier de ce que l'on est en train de faire, juste le faire avec le plaisir, l'envie, être là au bon endroit, au bon moment. Prendre soin de soi, c'est aussi accepter que l'on puisse avoir des idées différentes, des points de vue différents, divergents, que l'on ne rentre pas forcément dans les cases que la société nous impose, que l'on a ses propres envies, ses propres réalités, ses propres façons de voir la vie, de voir les choses. C'est avoir confiance en soi, avoir confiance en sa valeur, s'estimer suffisamment pour pouvoir mettre en place, faire ce que l'on a envie de faire, dans le respect des autres bien sûr, toujours. Mais oser faire ce qui nous plaît, oser être soi-même, oser être authentique, oser dire ce que l'on pense, avec respect, avec bienveillance et avec douceur. Ne pas se rajouter des couches de culpabilité parce que l'on a l'impression d'être différent, on a l'impression de ne pas être ce que l'on attend de nous. C'est tout simplement, voilà, être soi-même, oser être soi-même. Est-ce que tu connais le réservoir affectif dont on parle beaucoup en parentalité positive? En fait, on dit que les enfants ont un réservoir qui, s'il est vide, ou presque, l'amènera à avoir un comportement inadapté, que d'aucuns qualifieraient de caprice. Par exemple, l'exemple le plus courant, c'est dans un magasin, l'enfant va se rouler en hurlant par terre, ou il va taper du pied, il va crier parce qu'il n'a pas ce qu'il souhaite, parce qu'on lui a peut-être refusé des choses juste avant. Mais peut-être que si on remonte la chronologie, on se rendra compte que cet enfant, il est fatigué parce qu'il n'a pas fait de sieste, ou il s'est levé plus tôt que d'habitude, ou couché plus tard la veille. Peut-être qu'il a faim, que les stimulations avec les lumières du magasin, le monde autour de lui le fatigue, le perturbe, qu'il a envie de jouer, mais qu'on lui dit de bien se tenir alors qu'il a peut-être envie de dépenser son énergie, etc. Donc tout ça, en fait, cumulé, va faire que ça va vider sa jauge, son réservoir, et qu'à un moment donné, les émotions vont déborder. Il ne va plus être maître de ses émotions. Déjà qu'un enfant, il a besoin d'apprendre, et même encore nous, en tant qu'adultes, on a besoin d'apprendre à mieux maîtriser nos émotions. Sauf que lui, en fait, il ne va pas savoir tout ça. Son cerveau va se mettre en mode off, et du coup, il va avoir un comportement inadapté, c'est-à-dire qu'il ne... voilà, il va se mettre dans tous ses états et nous, on ne saura plus où se mettre. Et en fait, pour nous, c'est pareil. Nous aussi, en tant qu'adultes, on a une jauge que l'on va remplir grâce à de l'amour, à de l'attention, en se réalisant, en se ressourçant avec de la sécurité, etc. Et que si elle se vide, cette jauge, ou presque, et bien voilà, pareil, nos émotions vont déborder, on va exploser de colère, parfois même un seul mot de travers, une seule petite contrariété, qui parfois peut peut-être être hors contexte, mais comme on dit, l'expression, la coupe est pleine. Alors après cette décharge d'émotions, donc peut-être certainement sur autrui en général, ça va aller mieux, parce qu'on aura déchargé tout ce qu'on a là à l'intérieur, tout ce qui était emmagasiné depuis des jours, des semaines, voire des mois. On a fait sortir toute cette colère, toute cette tristesse, toutes les émotions qui étaient à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on va le regretter aussi, parce qu'on va peut-être avoir des gestes ou des mots difficiles que l'on va regretter ensuite. Mais tout ça fera que ça sera en dehors de nous et on se sentira un temps un peu mieux. Mais au final, est-ce que ce ne sera pas un cycle sans fin? Parce que si l'on ne prend pas de temps, ce temps qui nous est indispensable à notre équilibre, si l'on ne fait pas ce qui est nécessaire pour notre bien-être, il y a de fortes chances que ça recommence et que ce soit un cycle sans fin. Parce que de nouveau, on va emmagasiner de la colère, de la tristesse, des émotions négatives, des choses que l'on va accepter, que l'on nous transmette, qui ne nous font pas forcément du bien. Et tout ça, ça va rester à l'intérieur. Et quand ça reste à l'intérieur, au bout d'un moment, ça fait cocotte minute et pouf, ça explose. Par exemple, moi, j'ai beaucoup emmagasiné de choses à la naissance de ma deuxième fille, notamment un fort manque de sommeil, très très fort. Je n'ai pas accepté l'aide que l'on me proposait. Je me disais, je vais y arriver, je peux le faire. Je ne voulais pas imposer aux mamies des réveils multiples dans la nuit, une fatigue, etc. Alors que juste une nuit, ça m'aurait été déjà très bénéfique. Résultat, j'ai emmagasiné tout ça. Du coup, tout ce manque de sommeil, de la colère, de l'énervement. Je ne me réalisais pas à ce moment-là. J'étais vraiment focalisée sur la maison, sur mes filles. Je ne travaillais pas à ce moment-là. Je me suis complètement oubliée et j'étais une boule de nerfs perpétuelle. J'ai claqué la porte de notre maison 3 fois avec l'envie de ne pas revenir. Bon, je suis quand même revenue à chaque fois dans l'heure qui suivait après une bonne promenade. Mais clairement, avec le recul, ce serait à refaire aujourd'hui. Je prendrais du temps, j'accepterais une nuit ou deux pour pouvoir dormir et pouvoir refaire le plein d'énergie, pour pouvoir mieux me sentir. J'irais en dehors, je ferais des sorties toute seule à la rencontre d'autres mamans ou d'autres personnes qui pourraient me nourrir et qui me feraient du bien. Je m'entourerais de personnes qui m'aideraient à me réaliser en fait, pour me sentir mieux et plus à même d'être avec mes filles. Est-ce que tu connais l'expression « il faut tout un village pour élever un enfant » ? Aujourd'hui, on est en couple ou on est même seul pour élever un enfant. On n'a plus autant de soutien qu'autrefois, en tout cas pas autant que l'on en a besoin. Alors oui, on peut se dire qu'on peut y arriver, serrer les fesses, se convaincre et vouloir montrer aux autres que l'on est une super woman, une super maman, une femme qui réussit partout, sur tous les fronts. La carrière, on a un corps magnifique, on sait très bien cuisiner, on a élevé des super enfants, on a le temps d'aller se pomponner chez des professionnels et réaliser sa passion tout en, bien sûr, étant une parfaite maîtresse de maison. Ou aussi, on peut douter et se sentir nulle. Je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas, alors que d'autres, oui. Qu'est-ce qui fait que moi, pour moi, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression de tout faire de travers, que je suis toujours fatiguée, toujours énervée? Mais en fait, il y a une différence entre ce que tu vois de l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est amplifié avec le web. L'humain a plutôt envie de montrer ce qu'il réussit, ce qu'il sait faire, plutôt que montrer là où il rencontre des difficultés. C'est pas forcément très confortable de dire « bah là, en fait, j'y arrive pas ». Ça marche pas pour moi. Donc on va plutôt montrer ce qu'on sait bien faire. Sur les réseaux sociaux, sur le web, on montre la perfection. On montre des corps minces et musclés. On montre ce qui est beau. On montre des maisons hyper bien rangées. On montre tout ce que l'on crée de ses propres mains. Mais c'est ce que ces personnes veulent bien montrer. Si ça se trouve, le moment où cette influenceuse sur Instagram montre sa maison super bien rangée alors qu'elle a 3 enfants, peut-être que 5 minutes, 10 minutes avant, ou elle a passé peut-être 30 minutes à tout ranger le bazar pour pouvoir prendre sa photo. Ça, on ne le sait pas. Maintenant, quelque chose que je trouve assez bien, c'est que de plus en plus de comptes, de personnes Montre la réalité des choses et n'essaye pas de tout cacher. Et du coup, ça te déculpabilise beaucoup et ça fait du bien. Donc, ne perds pas de vue que ce n'est qu'une partie de leur vie qu'elle te montre. Elle ne te montre pas tout. Peut-être qu'elle rencontre des difficultés dans d'autres pans de sa vie sans le partager. Donc, on a une idée biaisée de leur réalité. En attendant, ça nous fait culpabiliser, ça nous rend mal, alors que finalement, ce n'est peut-être pas vrai. Donc, attention à ça. Donc, être vigilant aussi par rapport à ça, c'est aussi prendre soin de soi et de se considérer plutôt avec douceur et de se dire « Là, j'ai vu ça, je vais m'inspirer de telle chose et essayer de le mettre en place chez moi. Mais si ça ne marche pas, c'est ok. Moi, je fais d'autres choses qui sont très très bien sur d'autres pans de ma vie. Je m'inspire de ce que je vois, mais ce que je vois ne doit pas me faire culpabiliser. » Et je ne dis pas que ça se fait en un clic, hein, bien sûr. Mais pour moi, c'était important de te le montrer. Reviens plutôt à ce que toi, tu veux. Quelles sont tes priorités? Ce qui est important pour toi de réaliser dans ta vie? Et demande-toi, est-ce que tes enfants ont besoin d'une mère parfaite ou qui veut se sentir parfaite sur tous les plans, au risque de se cramer en route et de n'être plus que l'ombre d'elle-même, même si elle a choisi d'être présente le plus possible pour ses enfants? Ou penses-tu que chacun, chacune trouverait son équilibre en laissant à cette maman du temps pour qu'elle puisse se ressourcer, s'apaiser, se détendre, se réaliser? Pour qu'elle revienne ensuite et soit à même de résoudre les difficultés beaucoup plus sereinement. Ce sont des temps que l'on peut soit s'octroyer pour soi-même, soit partager avec ses enfants ou avec d'autres personnes. Échanger sur sa ou ses passions. C'est un temps aussi où on peut transmettre des beaux moments d'échange qui ouvrent aux enfants aussi des possibilités et des connaissances. Je reviens sur cette question de gestion des émotions. Est-ce que tu arrives à prendre des décisions, à régler des difficultés, à faire des choix lorsque tu es fatigué, lasse, triste ou en colère, etc. En ce qui me concerne, non. Je sens ma tête qui s'embrouille, je sens dans mon corps une agitation ou une grande fatigue et je dis souvent « je ne sais plus, je n'y arrive plus ». Est-ce que cela est permanent? Non. C'est souvent temporaire, bien sûr. L'affaire de quelques instants pour retrouver mon énergie. Ça peut être en fin de journée où je n'ai plus de jus et où je me dis « demain matin, c'est quelque chose que je ferai, je prendrai la décision demain matin quand je serai plus fraîche et quand ça ira mieux ». Il faut savoir aussi qu'on a une charge mentale qui est très très importante et qu'on a beaucoup de choix à faire, beaucoup de décisions à prendre. Et que ce soit la fin de journée ou tout au long de la journée, il y a un moment donné où c'est compliqué, c'est difficile et c'est ok. Donc imagine si en plus tu ne prends pas de temps pour souffler, pour relâcher la pression, pour respirer, pour te détendre. Ce sera à mon sens encore plus difficile. D'où l'importance de prendre le temps, de s'apaiser, de respirer. Tout simplement aussi, quand on est stressé, on a tendance à s'arrêter de respirer, à faire de longues pauses et à laisser le rythme cardiaque s'emballer. Alors que le fait de respirer consciemment avec des respirations lentes permet en fait de ralentir ce rythme cardiaque et d'arriver à une harmonie et un équilibre. Et apprendre à mieux gérer ses émotions, c'est aussi faire preuve de cohérence dans ses actes. C'est-à-dire d'exiger de ses enfants, d'autrui, de maîtriser ses émotions, de ne pas perdre ses moyens en nous criant dessus. Mais avant tout, est-ce que l'on montre l'exemple de notre côté? Moi-même, en toute transparence, j'ai perdu mes moyens de nombreuses fois avec mes filles. Surtout après la naissance de ma deuxième, puisque comme je l'ai dit plus haut, j'ai manqué beaucoup de sommeil, j'étais très très fatiguée. Et de temps pour me réaliser. Aujourd'hui, je suis plus à l'écoute de mes émotions, de mon corps. C'est perfectible bien sûr, je continue à m'améliorer. Mais lorsque je sens que je perds patience, j'y arrive maintenant à le sentir. Lorsque mes filles sont en conflit entre elles ou avec moi, je vais me retirer un petit peu. C'est-à-dire que je vais leur expliquer que cette situation ne me convient pas, que je sens l'énervement monter en moi, que je ne sais pas comment les aider davantage et que je préfère aller souffler un peu et revenir les aider dans quelques minutes. Ou alors c'est leur père qui est là à ce moment-là et qui va pouvoir prendre le relais. Je préfère les laisser pleurer quelques minutes, un moment, plutôt que risquer d'avoir des gestes malheureux, des paroles malheureuses, comme cela a pu m'arriver dans le passé. Aujourd'hui, ça va mieux, mais avant, je n'arrivais pas à détecter les émotions en moi. J'avais l'impression que c'était comme si on appuyait sans prévenir sur un interrupteur pour laisser déverser la colère qui était tapie au fond de moi. J'avais l'impression que c'était vraiment on-off. Mais cette colère, elle venait pas de n'importe où. C'était une colère ou des émotions négatives qui s'étaient accumulées. La fatigue, la lassitude, bref, des besoins aussi non comblés qui s'étaient accumulés au fur et à mesure jusqu'à déborder au mauvais moment. Et des fois, vraiment hors contexte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une petite contrariété, un mot, une demande de ma fille qui, en d'autres circonstances, n'aurait pas posé de problème, à ce moment-là, je n'avais clairement pas envie. Et c'est débordé. Aujourd'hui, je me retire d'un conflit avant de déborder.
Je sais reconnaître ces sensations parce que je m'entraîne, parce que je les découvre, parce que je les écoute, mais aussi parce que je prends des temps off pour moi presque tous les jours. Par exemple, le matin, quand tout le monde dort, j'ai la chance, j'ai des filles qui dorment assez tard le matin, donc je peux profiter d'une maison paisible pour faire ce qui est important pour moi. Soit je vais travailler, soit je vais méditer, soit je vais faire du sport, soit je vais lire, soit je vais regarder un film, etc. Soit juste sortir, juste être dehors, juste manger mon petit déjeuner en paix, ça aussi, c'est génial, ça fait beaucoup de bien. Je me relaxe, je médite, je respire en pleine conscience au cours de la journée. Je fais des méditations si je me sens fatiguée, si je me sens lasse, si je me sens triste. Parfois juste 10-15 minutes seulement. Je prends juste, même des fois 5 minutes. Je dis à mon mari, là j'ai besoin de 5 minutes pour relâcher un peu la pression, je me sens pas bien. Je lui dis maintenant, avant que ça soit trop pour moi. Voilà, quand je le sens, quand je sens que ça commence à monter, maintenant je me dis, là c'est le moment de faire une pause avant que ça ne s'envenime ou que ça déborde par la suite. Et puis je vais lâcher prise aussi sur ce qui n'est pas important pour moi et je vais me concentrer sur notre bonheur familial. Tout ça, c'est beau, tout ça, c'est facile à dire, mais tout ça, j'ai mis des mois et des mois avant déjà d'en prendre conscience et avant de réussir à le mettre en place aussi dans ma vie. Mais ce n'est pas impossible, c'est tout à fait possible. Des fois, il suffit juste de 5 minutes pour quand le matin, on sent que ça commence à monter un petit peu, pof, on prend 5 minutes. Je pense que tout le monde a 5 minutes pour pouvoir lâcher un peu, respirer, juste faire une cohérence cardiaque, juste une respiration, juste aller dehors, regarder un peu ce qui se passe autour de nous, respirer et hop, on revient dans de meilleures conditions. Ça, c'est de l'entraînement, ça se fait au fur et à mesure. La vie n'a jamais été facile et ne le sera jamais. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est quand même grandement facilitée, je ne dis pas le contraire, grâce au progrès technologique, au fait que voilà, nous, on ne sommes pas en guerre. Mais est-ce qu'on est forcément plus heureux? Pour certains et certaines, oui. Pour certains et certaines, c'est plus difficile. Certains et certaines vont se mettre une charge mentale et une pression telle qu'ils vont exploser en vol, que ce soit sur les plans pro ou perso. Le temps va de plus en plus vite, il faut aller toujours plus vite. Quelque chose que l'on a appris il y a quelques jours devient vite obsolète. Il faut toujours apprendre et apprendre. Il faut toujours être dans le coup, sans quoi on risque d'être évincé. C'est quelque chose que je ressens aussi au niveau du web. Quand je commence à me sentir à l'aise sur un sujet, pof, tout a changé au niveau des réseaux sociaux, de l'algorithme. Il y a de nouvelles choses qui sont en place, il faut changer de stratégie, etc. Oh, mais stop, en fait, on n'a pas le temps de vivre. Et à ce rythme-là, on y laisse forcément des plumes. Et le temps pour se reconstruire ensuite est très long. Parfois, certes, c'est presque inévitable de se prendre une grosse claque pour reconnaître ce qui n'allait pas et de vouloir faire en sorte que cela change. Néanmoins, je t'invite à prendre le temps de vivre, de ralentir, ne serait-ce que par petites touches quotidiennes, quelques minutes par-ci, par-là, pour ne serait-ce que bien respirer. À lever la tête de ton écran, de ton téléphone, de tes préoccupations pour observer la beauté autour de toi. À prendre du recul sur ce qui est important pour toi et ce sur quoi tu pourrais lâcher prise. Ce que tu souhaites entreprendre, voir se réaliser, ce qui te ferait vibrer et te donnerait de la joie. Prends quelques minutes pour voir tout ça et voir comment tu peux les mettre en place dans ton quotidien. Petit à petit, sans te mettre une nouvelle fois la pression de « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». L'important c'est que ça part de toi, de sonder ton cœur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux transmettre, à quoi tu veux contribuer. Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te fait du bien? Et naturellement, tu vas aller vers ces choses-là et naturellement, tu vas réussir à te dégager du temps. Ce n'est pas qu'une question de temps, c'est une question de choix également. On a tous 24 heures dans sa journée, mais à toi de définir à quoi ces 24 heures vont être utilisées. Prendre soin de soi, c'est un tout. Ce n'est donc pas juste prendre soin de son apparence. C'est de prendre soin de tout son être, son énergie, le regard que l'on porte sur soi avec bienveillance et avec douceur. C'est aussi vouloir donner sans rien attendre en retour et accepter ce que l'on nous donne chaleureusement et avec une profonde gratitude. Être reconnaissant de ce que l'on a déjà sans vouloir forcément aller chercher ailleurs, encore plus, toujours plus. C'est être fier d'avoir accompli des choses dont on ne se croyait pas capable. Vouloir se dépasser de jour en jour et se sentir à sa place, au bon endroit, au bon moment. C'est tout ça, prendre soin de soi et bien plus encore.